Ce matin, j'ai un sujet que je pense que c'est vraiment important et je ne pense pas qu'on comprend toujours très bien ce sujet-là. Donc, on va mettre le premier verset, s'il te plaît, Pierre. C'est un verset, c'est peut-être après le Notre Père, c'est peut-être le ou les, il y a deux versets là, mais les plus connus dans toute la Bible, très connus, très cités. C'est le premier verset que j'ai appris par cœur en français. Et il y avait un beau subjonctif dedans, donc j'étais fière de moi. Parce que, bon, subjonctif pour les Anglais, c'est pas évident. Alors, on va lire ces deux versets. C'est Jean 3, versets 16 et 17. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Alors, je vous ai déjà dit dans le passé que ce mot « sauvé », ça veut dire secouru, délivré, restauré, rendu entier. Donc, il y a un paquet de significations dans ce mot « sauvé ». Et c'est ça que Dieu a voulu pour le monde. Et ce terme vie éternelle, est-ce que tu peux reprendre le verset 16, s'il te plaît? Pour qu'ils aient la vie éternelle. Alors, je ne sais pas pour vous, la vie éternelle, c'est une drôle d'idée. Je ne sais pas ce que vous imaginez quand vous pensez à la vie éternelle. Quand je me lève à 6 heures le matin, en décembre, et il fait nuit, et il fait froid, et je dois faire 30 minutes d'autoroute pour aller enseigner de l'anglais à une trentaine d'étudiants qui, à 8 heures le matin, la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est apprendre de l'anglais. Parce que tout le monde, honnêtement, préfère rester au lit. Ce n'est pas à ce moment-là que je me dis, oh, si seulement cette vie pourrait continuer pour toujours. Parce que, franchement, je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux. Pour les parents, dont il y en a plusieurs ici. Quand votre enfant a vomi pour la troisième fois, et pour la troisième fois, vous avez changé ses vêtements et ses draps, et peut-être vos vêtements aussi. C'est pas à ce moment-là que vous vous dites, « Ah, si seulement je pouvais vivre ces moments pour toujours. » Je pense qu'on est d'accord. Ouais. Par contre, quand on est en vacances, et on est à la mer, il y a les palmiers, il y a le ciel bleu, il y a la mer bleue, on a une petite boisson fraîche à portée de main. Combien de personnes ici se sont déjà dit, ah, si seulement ça pouvait continuer pour toujours? Alors, on va faire un petit sondage. Qui s'est déjà... Oui, Alex, j'imagine que tu es content d'être de retour de vacances. Mais le problème, c'est que les humains, on n'est pas fait pour rien faire. Et si les vacances continuaient pour toujours, j'imagine que peut-être ça prendrait quelques mois quand même, mais à un moment donné, le sable, ça commence à t'énerver. Et le petit goût salé sur les lèvres, à chaque fois que tu manges un truc ou tu bois un truc, ça commence à... J'aimerais bien goûter autre chose que le sel. Donc, même les moments les plus magnifiques, honnêtement, je pense qu'on aura du mal si ça continuait pour toujours. Et donc, on a ce verset. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je veux la vie éternelle? Moi, je me suis déjà posé la question, est-ce que je vais m'ennuyer? Parce qu'en tant qu'humain, on a un peu de mal à imaginer l'éternité. Je ne sais pas pour vous, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Ce sera comment? On fera quoi? Alors, moi, je n'ai pas toutes les réponses à ces questions-là. J'ai des réponses partielles, on trouve ça dans la Bible, mais on ne sait pas tout pour l'instant. Mais il y a une chose dont je suis certaine, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que je veux la vie éternelle. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, avec ce verset-là, moi, j'aime bien essayer de comprendre ce que les personnes qui écoutaient Jésus à l'époque auraient compris par ça. parce qu'on sait que la culture à l'époque, c'est très différent de la culture qu'on vit aujourd'hui. Donc, il y avait peut-être des choses que nous, on n'a pas complètement captées dans notre lecture aujourd'hui. Et ce verset, ou ces deux versets-là, font partie d'une conversation que Jésus a eue avec quelqu'un qui s'appelait Nicodème. Alors, Nicodème, c'était un homme qui était à la recherche. Il ne savait pas trop de quoi, mais il était à la recherche. Il cherchait des réponses, il cherchait quelque chose, il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Mais il savait qu'il y avait plus. Et voilà comment Jésus lui répond. Ça, c'est ce que Jésus lui répond. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et que l'objectif de ça, c'était qu'on ait la vie éternelle. Alors, les Juifs à l'époque de Jésus, ils avaient une compréhension un peu particulière de cette expression, la vie éternelle. La phrase portait souvent le sens que nous connaissons aujourd'hui de quelque chose qui dure, c'est dans la durée, la vie éternelle. Mais elle avait aussi une deuxième signification. Et Nicodème, il aurait bien compris cette deuxième signification en tant que pharisien, parce que Nicodème, c'était un homme religieux. Et cette phrase, c'était souvent utilisée, la vie éternelle, c'était souvent utilisée en opposition avec un deuxième terme qui était la vie fugace ou la vie éphémère. Et la vie fugace, c'était la vie qui était plutôt préoccupée avec les choses du quotidien. Qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir, le foyer, qu'est-ce que je vais faire comme travail, etc. Ça, pour les Juifs de l'époque, ça c'était la vie fugace, éphémère. Et puis, il y avait la vie éternelle, et, où ils disaient aussi la vie d'éternité. Et ça, c'était vivre une vie qui tourne autour des choses d'une importance éternelle. Donc ça, c'était une autre façon pour eux, à l'époque, de comprendre cette expression, la vie éternelle. Et dans la tradition religieuse juive, souvent, pour les plus religieux, ça signifiait une vie où on étudiait tout le temps les Écritures, la loi, les prophètes, etc. Ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Et il y a un document qui s'appelle le Talmud, donc encore une fois, c'est un document de la tradition juive. Et il y a une histoire dans ce document qui parle d'un rabbin qui un jour, il passait par un champ et il voit les ouvriers, les paysans en train de labourer la terre. Et lui, il a passé toute sa vie à étudier les Écritures. Et puis, il voit ces gens qui sont en train de travailler dans le champ et il dit: ah, ces gens, ils ont abandonné la vie éternelle et ils se sont mis à vivre la vie fugace. Et on détecte un tout petit peu de mépris, honnêtement, dans sa façon de parler. Mais j'imagine qu'il était quand même heureux de manger ce que les paysans produisaient dans leur vie fugace, parce que c'est très bien d'étudier les Écritures, mais il faut quand même manger. Il faut quand même avoir un peu de pain sur la table. Et en fait, dans cette conversation entre Jésus et Nicodème, je pense que Jésus, il veut souligner quelque chose dans sa discussion avec Nicodème, qui est un bon pharisien et donc qui a beaucoup étudié les Écritures. Et il dit, c'était la même conversation en fait qu'il avait avec d'autres pharisiens. Et on voit dans Jean 5, 39 et 40, Jésus, il est encore en train de parler aux pharisiens. Et il dit: vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Ça, c'était la tradition juive. Or, précisément, ce sont elles, les Écritures, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Et donc, il y avait toute une partie de la société à la recherche de la vie éternelle. Et alors Jésus, il n'est pas en train de dire que l'étude des Écritures, c'est inutile. Loin de là. Il appuie beaucoup sur les Écritures, il les connaissait par cœur, il les citait souvent, mais il dit que ça ne sert à rien si on ne va pas au bout. On peut faire tout ce qu'on veut qui est religieux, mais si on ne va pas au bout, on peut lire la Bible, on peut venir au culte ou à la messe, on peut jeûner, on peut prier même. Mais si ça ne nous pousse pas à venir à Jésus, nous avons raté la cible ultime. Et ça reste, malgré toutes les apparences, ça reste une vie fugace, une vie éphémère. Et cette préoccupation avec la vie fugace, c'est pas nouveau, c'est pas juste maintenant qu'on commence à se poser des questions. Oh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ça sert à quelque chose? Il y a un livre dans la Bible qui date d'il y a des siècles, qui s'appelle Ecclésiaste. Et tout ce livre-là parle de la vie fugace. À quoi ça sert? En fait, c'est assez déprimant à lire si vous ne savez pas avant de le démarrer ce que vous allez lire. Je vous préviens si vous n'avez pas encore lu ça. Et c'était écrit par un grand sage de l'époque, mais il dit quelques éléments qui sont très importants pour nous. Ecclésiaste 3, versets 12 et 13, il dit, il parle du quotidien de l'humanité, ce que les gens font tous les jours. Et il dit, j'ai reconnu que leur seul bonheur, donc l'humanité, vous, moi, consiste à se réjouir et à bien agir pendant la vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Dieu, il n'est pas contre la vie quotidienne. Quand on le vit bien, la partie fugace, si vous voulez, de notre vie, c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu veut qu'on le vive en tant que cadeau. Mais il y a autre chose qui est dit juste avant. Pierre, si tu peux mettre Ecclésiaste 3, 9 et 11. Donc, c'est la partie juste avant. Il dit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'on puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Alors qu'on soit pharisien comme Nicodème ou paysan dans notre champ, l'appel de l'éternité, ça fait partie de qui nous sommes en tant qu'humains. Et la recherche pour des réponses, pour le « je ne sais pas comment l'exprimer », on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça c'est quelque chose qui reste partie de qui nous sommes. C'est normal en tant qu'humains qu'on soit à la recherche des réponses. Et la bonne nouvelle, c'est que ce que le sage de l'époque, il dit que sans toutefois que l'on puisse appréhender l'œuvre de Dieu, ça devient beaucoup plus clair une fois que Jésus entre dans l'histoire. Ça devient beaucoup plus clair parce que Jésus ne le cache pas pourquoi il est là. Et avant sa crucifixion, en discussion avec Dieu son Père, Jésus dit en Jean 17, 3, il dit, or, la vie éternelle, donc on est Jean 17, verset 3. Je ne l'avais pas mis sur la feuille. Désolée. Jean 17, verset 3, il dit, or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et la vie éternelle, ce n'est pas autour de quelque chose d'une importance éternelle, ça tourne autour de quelqu'un d'une importance éternelle. La vie éternelle, ça tourne autour de Jésus. Et puis Jean 5, 24, encore c'est Jésus qui parle. Oui, vraiment, je vous l'assure, Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, il possède dès à présent. Il possède dès à présent la vie éternelle. Il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Et vous savez, avec la vie éternelle, comme avec beaucoup d'autres promesses de Dieu, il y a une partie qui est le déjà. Et puis, il y a une partie qui est le pas encore, mais ça arrivera. C'est qu'on a déjà parlé un peu de ça. Et je veux vous lire une partie de la vision de la vie éternelle que vous vivrez, que l'apôtre Jean a vue dans une vision. Et c'est dans l'Apocalypse 21, 3 et 5. Et donc, c'est Jean qui parle. Il dit, j'entendis une forte voix venant du trône. Donc, il a une vision de ce qui se passe dans le ciel, et c'est le trône de Dieu dont il parle. Donc, j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Alors, nous ne vivons pas encore dans la plénitude de la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose qui va venir. Vous savez, la nuit, ma tendinite me réveille toujours. Je dis vivement la fin de la souffrance. Je suis pour. Nous avons encore, j'imagine parmi nous aujourd'hui, des raisons pour pleurer. Nous avons peut-être encore des raisons pour le deuil. Et la fin définitive de ces choses, ça attend le retour de Jésus. Mais la vie éternelle a déjà commencé pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Et je vivrai sans doute encore les moments de souffrance ou les moments de deuil, mais Dieu habite déjà avec moi. On connaît le verset qui dit « Je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi ». Pour mon deuil, la Bible dit qu'il est là, il est mon réconfort, il est mon consolateur. La mort, ça existe toujours en ce moment, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Pour mes souffrances physiques, parfois Dieu me guérit. Et ça, j'ai déjà vécu. Parfois, c'est simplement qu'il m'accompagne dans ces moments de souffrance pour me permettre de traverser tout ça dans la paix et dans la joie. Et tout ça, c'est un petit avant-goût de la vie éternelle. Mais Dieu, il manifeste sa paix, il manifeste sa puissance, il manifeste sa présence dès aujourd'hui. Ça, c'est la vie éternelle. Dans la vie éternelle que j'ai déjà, je ne vois pas Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà... Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Mais je me confie à lui par la foi. Et je connais sa présence. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Dans la vie éternelle, dans toute sa plénitude, la Bible dit que je le verrai face à face. On n'est pas encore là. J'attends ce moment. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. L'apôtre Paul, il dit en 1 Corinthiens 13, verset 12, il dit, « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte. » Donc, ça veut dire que pour voir Dieu, je vous regarde, mes frères et mes sœurs dans l'Église. Vous êtes le rayonnement de Dieu. Je ne le vois pas, mais je vous vois. Donc voilà, souriez. Vous êtes représentant de Dieu. OK? Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais, alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Et vous savez, je ne pense pas que je vais m'ennuyer dans l'éternité face au Dieu de l'infini. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend là, mais je suis sûre d'une chose, je ne vais pas m'ennuyer parce que je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alors, nos pratiques religieuses, notre vie de tous les jours, la famille, le travail, le savoir, l'argent, les loisirs, tout ce que vous voulez ajouter à cette liste-là, toutes ces choses-là ne vont jamais combler le désir que Dieu a mis en nous pour connaître ce petit quelque chose de l'éternité. Il n'y a rien d'autre qui va le combler. Nous avons un désir, c'est au plus profond de nous. Et je pense que parfois, on ne le reconnaît pas. On peut être un peu mal à l'aise, on peut être à la recherche, mais on ne sait pas ce que c'est qu'on cherche exactement. Et Dieu dit, en fait, ce que vous cherchez, c'est la vie éternelle. C'est la connaissance de moi. C'est la vie avec moi. C'est la vie où tu connais la profondeur de mon amour pour toi. C'est la vie où tu connais la profondeur de ma paix dans des moments qui sont compliqués. C'est le moment où tu veux vivre en se disant comment est-ce que j'ai vécu avant ce moment-là. Ça, c'est le sentiment que j'ai, je vous dis. Et c'est pour ça que j'aime la vie éternelle. Je sais que j'ai pas encore reçu tout ce qu'il y a à recevoir pour la vie éternelle. Mais ce que j'ai déjà goûté me donne envie. Ça me donne envie. Vous savez, dans la vie éternelle, nous devenons en même temps moins liés par nos circonstances terrestres et de plus en plus enracinés dans l'amour et dans le règne de Dieu dans nos vies. Quand Jésus est venu avec sa bonne nouvelle, ce n'était pas « vous aurez le salut ». Ça peut nous étonner. Ce qu'il a dit, c'est que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est proche. Et un peu plus tard, le règne de Dieu est là, déjà. C'est le règne de Dieu que Jésus a annoncé comme sa bonne nouvelle. Et Paul, l'apôtre Paul, il utilise des mots comme passagère et légère pour parler des souffrances dans nos vies. Et ce n'est pas pour minimiser nos souffrances. Paul, il a vécu des circonstances brutales. Si vous connaissez l'histoire de Paul, tout ce que vous pouvez imaginer, je pense qu'il a vécu. Il a vécu une vie dure. Mais il dit que ces choses sont passagères. C'est la vie fugace. Parce que ce qui m'attend, c'est la vie éternelle. Et Pierre, si tu peux mettre 2 Corinthiens 4. Verset 16, il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore, merci la tendinite, même si notre être extérieur détériore peu à peu, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes renouvelés de jour en jour. Et ça devrait vous rappeler ce qui est annoncé du trône de Dieu. Quand il parle de la vie éternelle, il dit « Je renouvelle toutes choses ». Et là, Paul, il est déjà en train de vivre sa vie éternelle. Il dit déjà tous les jours « Je suis renouvelé, malgré mes circonstances pourries, je suis renouvelé ». Alors, est-ce qu'on peut juste, pour terminer, juste reprendre le premier verset, Jean 3, 16. Donc, oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Malheureusement, se perdre, c'est la direction par défaut de notre vie fugace. Malheureusement, c'est comme ça. Mais Dieu intervient. Dieu intervient dans la personne de Jésus pour nous inviter à placer notre confiance en lui. Et vous savez, souvent on traite ce verset comme si c'est quelque chose qu'on fait une fois dans la vie. Et puis c'est bon. Ouais, j'ai placé ma confiance en Jésus. Et forcément, il y a une première fois. Il y a la première fois où on prend ce pas, ont dit, d'accord, Jésus, je ne sais pas exactement ce que je fais, mais je place ma confiance en toi. Et on passe, la Bible nous dit, de la mort à la vie. Mais vous savez, pour nous qui, ça fait déjà des années qu'on marche avec Dieu, c'est une invitation en continu. Parce que tous les jours, Dieu nous invite à replacer notre confiance en lui pour échapper à la perdition. Parce que comme je vous ai dit, la direction de, par défaut, si on ne fait pas attention, c'est la perdition. On se perd. Et arrive un moment où c'est trop tard pour changer de direction. Et donc, Dieu nous invite tous les jours à placer notre confiance en lui pour échapper à la perdition et pour entrer dans la vie éternelle. Et c'est pour aujourd'hui, dans notre quotidien, en plein milieu de notre vie fugace, il y a une vie éternelle qui commence à grandir en nous. Et c'est pour toujours. Et ça va de mieux en mieux, de gloire en gloire. On passe de ce qui est partiel à ce qui est entier. On passe de la petite avant-goût qu'on a à la plénitude de tout cela. Et ça fait 50 ans, j'ai fait le calcul, ça fait 50 ans que je suis Jésus. 50 ans. Et vous savez, à aucun moment, j'ai eu un regret. À aucun moment, j'ai eu un regret. Parce que j'ai vu encore et encore ces choses dont je vous parle. Et c'est pour ça que je veux la vie éternelle. Moi, je veux que ça continue pour moi et je veux ça pour vous. Alors, je vous demande de fermer les yeux, s'il vous plaît. Et on va juste prendre un moment pour penser. Alors, pour les vieux chrétiens là, pour ceux qui cheminent avec Dieu depuis très longtemps, est-ce que vous vivez tout ce que Dieu a pour vous dans la vie éternelle, maintenant? On sait qu'on n'a pas tout, mais tout ce que Dieu, est-ce que vous connaissez la présence de Dieu avec vous? Est-ce que vous connaissez sa paix dans les moments difficiles? Est-ce que vous vous sentez renouvelé? Parce que ça, c'est la promesse de Dieu pour vous. Et il dit que ces mots sont dignes de confiance. Donc, je veux simplement vous encourager, si vous êtes, voilà, chrétien depuis longtemps, vous connaissez Dieu depuis longtemps, je vous encourage simplement maintenant juste à renouveler votre confiance en Jésus. Et si vous l'avez déjà fait hier, bah, fais-le encore. Parce que c'est une invitation continuelle. Et peut-être il y a les personnes ici qui n'ont jamais pris le pas. Vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus. Vous n'avez jamais goûté à ce qu'on peut goûter de la vie éternelle, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, du sentiment d'être aimé par Dieu, de la présence de Dieu avec vous dans toutes vos circonstances, que ce soit facile ou difficile. Alors, je vais simplement vous poser une question très simple. C'est, est-ce que vous voulez la vie éternelle? Parce que si vous voulez la vie éternelle, il suffit de placer votre confiance en Jésus. Et on invite le règne de Dieu dans sa vie. Et on invite la paix de Dieu dans sa vie. Et on invite Jésus en tant que sauveur dans sa vie. Et Jésus dit, vous passez à ce moment-là de la mort à la vie. Et ça va continuer de gloire en gloire.